bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais dire un mot de remerciement à l'Université internationale de Rabat pour son accueil aujourd'hui, donc le 17, qui précède donc les deux journées de demain relatifs au colloque qui va avoir lieu ici même autour du thème de la violence et de la sortie de la violence. On avait décidé tous ensemble de présenter les résultats de travaux que la FMSH avait conduite depuis maintenant plus de deux ans autour du thème violence et sortie de la violence, qu'on avait appelé l'IPEV, International Panel sur On Exiting Violence. Et donc, l'idée était de présenter ce rapport qui vient d'être fait à Paris, imprimé en tout cas en quelques exemplaires, et de le présenter rapidement par quelques propos autour du rapport, de son origine, de l'origine du programme, et puis des principaux résultats en la personne de plusieurs de nos collègues, tout le monde n'est pas là, qui ont participé à ce programme depuis maintenant plus de deux ans. Donc, juste, je rappellerai que ce programme international Panel on Exiting Violence est un programme qui a été largement soutenu par la Carnegie Corporation, qui on a eu d'autres soutiens en France, dont le CGET et d'autres institutions en France, pour réfléchir à partir de ce qui s'était passé en France en 2015, pour réfléchir autour de ce qui était pour les pouvoirs publics, d'abord et avant tout, la question des attentats terroristes, du djihadisme, de la radicalisation et de toute une série de ces phénomènes que tout le monde connaît, qui ont bien sûr touché la France, mais pas seulement. Et bien sûr, le phénomène de Daesh qui était parallèle à ces attentats, et donc de tout ce qui concernait ces phénomènes appelés aussi islamisme et autres thématiques autour de cela. Donc, nous avons constitué autour de ces problématiques très généralement énoncées sous cette forme. Ce que je viens de dire là est très général et très même, je dirais, stéréotypé dans sa formulation. Nous avons décidé de constituer des groupes de travail, bien sûr autour des questions qui portent sur le djihadisme, dans ses rapports éventuellement au salafisme, bien sûr autour de la radicalisation, en particulier des jeunes en France et en Europe, évidemment autour des questions qui étaient liées à ce qui se passait au Moyen-Orient, et donc aussi sur la question de la crise des États au Moyen-Orient. Mais on a décidé qu'il ne fallait pas, et on avait raison, et on maintient ce point de vue, on a décidé qu'il ne fallait surtout pas enfermer les questions dans la seule problématique de l'islamisme, et qu'il fallait absolument comparer avec d'autres situations où tout à la fois il y a eu de la radicalisation et où il y a eu des tentatives d'en sortir en quelque sorte. Et ne serait-ce que des collègues qui ont participé, qui sont ici présents, je pense à Jérôme, ici, qui ont travaillé sur des phénomènes qui ont eu lieu en Europe, en France en particulier, où il y a eu des attentats, où il y a eu de la radicalisation, du passage à l'acte, toutes ces formulations qui sont liées à ce qu'on appelait le djihadisme. Eh bien non, il a travaillé sur l'ETA auparavant, il était utile de comparer avec des situations semblables. On aurait pu évoquer l'IRA, on pourrait aussi évoquer l'ultra-gauche en Europe dans les grandes années 1970, les Brigades Rouges, etc. Et puis on pourrait évoquer d'autres phénomènes qui se sont déroulés ailleurs qu'en Europe, en Amérique latine. On pouvait aussi évoquer, même si c'est très différent, mais le théâtre des school shootings aux États-Unis, où des gens, des individus tuent d'autres individus et se sacrifient au bout du compte, hein, puisqu'ils meurent en général. Donc, il fallait comparer. Donc, on l'a fait. Bien sûr, c'est pas facile de faire de la comparaison. Les contextes sont pas les mêmes. Parfois, les périodes historiques ne sont pas les mêmes. Mais il nous paraissait important pour ne pas véritablement enfermer les questions qui nous étaient posées, en particulier du côté de nos autorités en France, qu'il fallait pas enfermer cette question dans l'islamisme. Et c'est comme ça que la presse, les médias en général, posaient les questions, évidemment. Quand ce n'était pas l'islam, tout simplement. Par ailleurs, la question était de la sortie de la violence, qu'on voulait aussi traiter comme un sujet de recherche. Et de ce point de vue-là, quand bien même y avait-il de la violence extrême qui surgissait, il y avait aussi beaucoup de pratiques et de dispositifs qui étaient mis en place pour essayer de sortir de la violence, pour essayer de faire en sorte que les gens se déradicalisent, ou pour faire en sorte que une guerre civile, par exemple, aboutisse à de la réconciliation. Donc, il y a, comme on se l'est, toute une série de aujourd'hui d'expertises, de programmes pour faire en sorte que on sorte du conflit là-dessus. La littérature, je dirais, grise, est très riche, très abondante, et il nous apparaissait important de regarder cette littérature et d'inviter, bien sûr, certains de ces experts à réfléchir avec nous sur à la fois les réussites de ces sorties de la violence, mais aussi sur ces impasses, parfois, et sur, parfois, ces échecs. Par exemple, on a commencé à travailler, tout au début, d'ailleurs, de ce programme, sur les accords de paix en Colombie, qui, avec lesquels, d'ailleurs, nous étions en lien, non pas avec les accords de paix, mais avec le Centre de la mémoire et de l'histoire à Bogota, qui travaillait précisément à comment sortir de la violence dans ce pays. Donc, c'était un des sujets qui nous a paru intéressant. Donc, on a examiné avec des collègues colombiens en particulier là-dessus. Eh bien, au bout du compte, quand on a commencé à réfléchir sur ce qui s'est passé en Colombie, les accords de paix, au bout du compte, n'ont pas été validés, n'ont pas été signés. Il y a eu un référendum. Et puis, aujourd'hui, le Centre de la mémoire et de l'histoire avec lequel on travaillait est une coquille vide. Alors que pendant un temps, elle était véritablement une institution importante, puisque le nouveau gouvernement colombien a enlevé les têtes, ceux de nos collègues qui travaillent avec nous, tout simplement parce qu'ils considèrent que le temps de la réconciliation telle qu'elle était prévue auparavant n'est plus de mise. Donc l'histoire est ainsi faite que ce qui était vrai il y a 3 ans ou 4 ans ne l'est plus maintenant. Et donc il faut un peu reprendre l'ouvrage sur le métier. Alors, c'est vrai en Colombie, mais ça peut être vrai ailleurs. Il nous apparaissait important, et c'est Skostros qui est avec nous ici, est un des spécialistes de ces questions-là, comment aussi la sortie de la violence peut déboucher sur des questions de projets de mémoire, des projets mémoriels. Hein. On vient de fêter, si on peut dire, ou commémorer les 25 ans du génocide au Rwanda. C'est en ce moment la commémoration est de mise, hein, avec tout ce que ça comporte comme aujourd'hui, comme polémique à nouveau frais, hein, autour de, non seulement de ce qui s'est passé en 1994, le génocide des Tutsis, mais aussi l'implication de la France éventuelle dans cette affaire. Bon. Donc c'est une question du passé et du présent. Et donc on voit bien comment ces questions-là sont des questions qui comment dirais-je, se pose à nouveau frais et parfois même, je veux dire, retravaille en profondeur non seulement le Rwanda, mais la société française, par exemple, ou la société belge, ou la communauté internationale, hein, puisque on reparle en permanence de cette question de ces 800 000 morts du génocide pendant il y a 25 ans, pendant 3 mois. Voilà. Donc, je ne vais pas poursuivre davantage. Simplement, le rapport est fait de ce travail. On avait 10 groupes de travail. Il y avait aussi un groupe très important autour de la question qui était liée à celle que je viens d'énoncer là, autour des politiques d'amnistie hein, qui ont souvent été pratiquées pour justement... on efface, mais l'amnistie n'est pas forcément la bonne solution. On peut pas non plus, la justice doit passer. L'impunité n'est peut-être pas la règle. Il faut au contraire punir, etc. Donc il y a tout un débat qu'on a mené aussi à l'intérieur de ce programme qui, je crois, a donné en tout cas des résultats provisoire sans doute, mais tout à fait important. Voilà, donc je vais donner la parole à Michel Vivorca. Michel a été un initiateur de ce programme il y a 3 ans, autour d'un séminaire qui a porté d'abord et avant tout sur la question de ce qui se passait en France, etc. Moi-même, je me suis vite associé à cette initiative de Michel et j'ai pas mal contribué à la réalisation de tout cela. Mais je vais donner la parole pour qu'il dise quelques mots. Ensuite, autour du rapport, tout le monde n'est pas là, mais prendront la parole nos collègues pour dire tel ou tel point qui leur paraît important de dire sur ce qu'ils ont traité. Mais je crois que ce rapport est important. J'insiste là-dessus. Il va donner lieu à un livre hein, juste après. Et donc, je crois qu'on peut être assez fiers d'avoir mené ce travail. Et c'est pour cela, d'une part, qu'on le présente ici. On le présentera à Paris aussi, évidemment. Il y aura une suite, hein, parce que avec des thématiques semblables et d'autres différentes dont on parlera après. On va profiter d'être là pour enchaîner très très vite autour d'une réunion de travail sur l'IPF2. On restera là et on continuera. Et puis nous discuterons plus amplement de tout cela par la suite à Paris. Voilà, je te donne la parole, Michel.
Merci, Jean-Pierre. Je pense que tout le monde a bien compris que le véritable animateur et directeur de ce projet, c'est Jean-Pierre. Donc j'en ai eu l'idée, c'est vrai, je l'ai accompagné, je l'accompagne, c'est un peu mon enfant, mais disons que un enfant en général, je viens de voir qu'il y a des enfants qui ont un triple patrimoine en ce moment, avec des manipulations génétiques, disons qu'ici, c'est une double hérédité, pas plus, mais c'est déjà pas mal, donc... C'est vraiment Jean-Pierre qu'il faut remercier et féliciter. 2-3 remarques, parce que je n'ai pas à être long sur tout ça. La première remarque, c'est que ce programme, il a une caractéristique, je crois, assez inédite. C'est qu'il va depuis ce qui est le plus empirique jusqu'à ce qui est le plus exigeant théoriquement. Ce n'est pas si fréquent que ça, d'avoir tout ceci intégré. On n'a même pas besoin d'en discuter entre nous. Ça n'est pas un problème, c'est comme ça. Donc nous sommes capables de discuter aussi bien de est-ce que les catégories comme radicalisation, déradicalisation sont utiles que d'écouter ou de lire un travail qui porte sur telle ou telle expérience très concrète dont on découvre tout simplement les réalités. Donc ça, c'est la première caractéristique moi qui me semble très très importante. Et s'il s'agit du côté empirique, Jean-Pierre l'a dit, on n'est pas enfermé dans l'islam ou l'islam radical, on n'est pas enfermé dans une partie du monde, c'est global, international. Et s'il s'agit de l'ambition théorique, elle pourrait étonner, parce qu'après tout, nous ne faisons pas de recherche, ou très très peu. Nous mettons ensemble des chercheurs, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce que ce programme amène du point de vue théorique, me semble-t-il, ou un peu plus abstrait, c'est le fait que lorsque des chercheurs de plusieurs disciplines, d'horizons, d'orientations différentes se rencontrent, sans faire des nouvelles recherches, de leur rencontre, si elle est l'objet d'un long travail, naissent des nouvelles approches, des renforcements de certains points, des affaiblissements d'autres. Enfin bref, naît un progrès théorique. Donc ça me semble très très important et je crois que ça doit être dit, cette couverture. Et Jean-Pierre l'a dit, mais je voudrais le souligner, nous avons constitué, ou nous commençons à constituer la sortie de la violence comme un domaine pour les sciences humaines et sociales. Ce qui n'était pas le cas avant, Jean-Pierre l'a bien, ou très peu le cas avant. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que tout ceci a mobilisé en tout, depuis le début, peut-être 150 ou 200 chercheurs. Parfois beaucoup, parfois moins. Donc, ça crée un milieu qui est international, pluridisciplinaire, et par conséquent, qui ne s'arrête pas juste à la seule expérience française ou européenne. Et un milieu, je dois insister sur une chose, un milieu dans lequel les chercheurs jeunes et les chercheurs vieux, j'utilise exprès des très mauvaises catégories, travaillent ensemble sur un pied absolu d'égalité. Je trouve catastrophique cette tendance que j'observe en France, mais je crois qu'il existe dans d'autres pays, qui consiste à dire aux doctorants ou aux jeunes docteurs, faites des colloques entre vous, des réunions entre vous, travaillez entre vous, pataugez dans le petit bain, pendant que les seniors, eux, vont s'ébattre dans la grande piscine. Je trouve ça très mauvais. Je pense que nous devons veiller à ce que les nouvelles générations, s'il s'agit des plus anciens, ils doivent veiller à ce que les nouvelles générations se socialisent tout de suite, avec un milieu international et très senior, si vous voulez, que tout ça ne soit pas séparé. Et je trouve que ce programme réussit plutôt bien cet objectif, là encore sans avoir à le dire très fortement ou très souvent ou très explicitement. Et puis, donc tout ceci crée un milieu, tout ceci crée des réseaux, et c'est une très bonne chose. Et juste, je terminerai, puisque Scott est ici, Jérôme est ici, Sabrina, j'en oublie peut-être, mais là c'est sur un point précis, nous avons prolongé tout ceci par le lancement d'une revue internationale, qui aura sa version anglaise et sa version française, c'est pas le lieu d'en parler bien sûr, mais nous créons ensemble une revue dont les premiers numéros sortiront, je pense, dans à peu près un an, qui sera une revue du meilleur niveau qui soit, très vraisemblablement, Violence and International Journal, donc une revue, c'est journal en anglais, hein, c'est revue, an International Journal, et cette revue sera vraisemblablement éditée et diffusée par SAGE, en coopération avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et je peux vous dire, parce qu'on a commencé à faire à recevoir des articles, elle sera vraiment très très belle. J'en dis pas plus, c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que ce qui est en train de se mettre en place est une dynamique qui ne s'arrête pas aujourd'hui. La prochaine grande étape, c'est ce dont on parlera plus tard, le IPEF-2, comme nous disons dans notre petit jargon, c'est-à-dire la deuxième phase de ce projet. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire. J'ai eu la chance de pouvoir feuilleter dans l'avion hier soir le rapport. Je peux vous dire qu'il est vraiment tout à fait digne d'être publié. C'est un travail très, très intéressant. Il y a encore du nettoyage et de la correction, mais enfin, tout ça, c'est vraiment secondaire. Et donc, je voudrais vous dire, c'est vraiment un travail collectif. On peut vraiment dire que ce rapport est collectif.
Je voudrais juste rajouter que je ne l'ai pas fait, mais je voudrais remercier tout particulièrement Vlad Berendeil et Sabrina Melenot pour le travail très particulier qu'ils ont fait, alors à la fois sur l'IPEF d'un côté, sur le programme, mais aussi sur le rapport, puisque tout récemment, pas seulement d'ailleurs, mais il y a aussi, je crois, notre ami Michel Zumkir, il y a aussi Alison Sanders qui a contribué à tout cela. Donc c'est un travail qui a été fait, je dirais pas, c'est pas une division du travail, ça a été fait un travail collectif, y compris parfois sur le fond, pas seulement sur la forme. Voilà, donc je tenais à le rajouter. Est-ce qu'on pourrait maintenant peut-être donner la parole à quelqu'un? Oui, je crois que Jérôme, ce serait peut-être toi le premier, si tu veux bien dire un mot, sur, au fond, les deux thèmes, les deux principaux thèmes qui ont structuré au début ce programme, qui étaient radicalisation et déradicalisation, et un ou deux points que tu voudrais mettre en exergue. Ça te va ?
Merci Jean-Pierre, bonjour. À mon tour, moi, je voulais remercier les organisateurs de cette session et toute l'équipe de la Fondation, Inde, tous ceux qui ont participé à l'organisation, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se réunit en fait, et c'est beaucoup de travail. Donc c'est la part invisible du travail, mais c'est la logistique, c'est quand même le diable dans les détails. Donc merci pour toujours la qualité du kick-off. Alors, il y a eu plusieurs rendez-vous. Moi, je n'étais pas à Tunis, mais il y a eu Beyrouth, il y a aujourd'hui Rabat. Donc, nous sommes très sensibles à tout ce travail réalisé, ce travail de mise en forme aussi, qui est très prenant, très exigeant, de traduction. Donc ça, c'est une part du travail scientifique assez ingrate et qui est pourtant absolument fondamentale. On le voit avec la revue, le travail de l'ombre, qui n'a peut-être pas reconnu à sa juste valeur, mais c'est quand même une grande partie du travail scientifique, donc merci. Oui, comme le disaient Jean-Pierre et Michel, une des grandes leçons de ce premier épisode de la série IPEV One, c'est la création d'un milieu de recherche intergénérationnel et genré. Puisqu'il faut... Alors, ce que je voulais dire, ce n'est pas représentatif de la dynamique interne du programme. Nous ne sommes que des hommes. Mais en tout cas, dans le groupe 1, que j'avais le grand honneur de copiloter avec Farhad Khosrokavar, qui n'est pas là aujourd'hui, nous avons des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses. Je ne les citerai pas tous, parce que nous étions une dizaine, mais c'était... C'est quand même une dimension importante de préciser que nous avons fait attention à ces dynamiques importantes aujourd'hui, de respecter, que ça ne soit pas un dogme non plus, hein, mais de respecter des sensibilités et des points de vue. Alors nous, je vais parler au nom très rapidement de deux groupes, sachant que le deuxième groupe n'est pas là, mais c'était le groupe déradicalisation. Mené par nos deux collègues Bartolomeo Conti et Sachi, qui est quelqu'un qui travaille à Singapour. Nous avions en charge le travail de comparer, de prendre en charge le concept, comment dire, imposé, et radicalisation. Donc déjà, c'est un champ de recherche en tant que tel qui est très problématique, puisque c'est un terme qui nous a beaucoup embêtés au départ. Et c'est embêtant parce que parallèlement, il y a une surproduction scientifique absolument délirante sur ce thème depuis les attentats de Londres, en septembre, et surtout Londres, qui est une catégorie policière et psychologique. Donc c'est un tournant imposé dans la pensée sur la violence et la sortie de la violence. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas évident scientifiquement, alors que ça génère beaucoup de littérature et ça génère beaucoup de financement. Donc dans quelle mesure nous, on doit accepter ou pas cette catégorie imposée qui est en rupture avec ce que nous on avait étudié les uns et les autres dans ce groupe, qui était tout simplement la violence politique, l'État, les ressources, le territoire. Et on passe à une toute autre, comment dire, toute autre épistémologie qui n'est pas neutre. Et je trouve et c'est l'opportunité qui nous est donnée à IPEV, c'est de discuter au moins avec une littérature essentiellement anglo-américaine, très psychologisante, où la radicalisation présuppose une forme de tournant psychologique, où c'est plus le groupe, l'État, la violence politique, mais l'acteur en lui-même et sa sensibilité, voire son équilibre intime, qui serait la source d'un dérèglement. Or, c'est pas rien hein, comme tournant, parce que ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi à la source de politiques publiques tout à fait différentes, et d'une conception politique tout à fait différente, notamment dans la détection, dans des politiques sécuritaires, de déradicalisation, qui vont gommer, ce qui est le cas, sans lancer le débat, aussi peut-être en Afrique du Nord, qui vont gommer les aspects sociaux et les processus sociaux à l'origine, potentiellement, de ces anomies, de ces déviances. C'est des termes qu'on n'utilise plus du tout, d'ailleurs. Donc c'est beaucoup pris le cerveau là-dessus. Et puis Farhad est intervenu avec sa grande sagesse. Farhad Khosrow-Kavar nous a dit « on ne va pas passer trop de temps là-dessus, acceptons le fait que la communauté scientifique aujourd'hui se construit sur ce concept, discutons-le, prenons-le à bras le corps et déconstruisons-le. » Bon, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Malheureusement, pas trop en interaction avec le groupe 2 sur la déradicalisation, parce que tout ça est extrêmement lié. Ce sont des processus, des temporalités. On ne peut pas distinguer la radicalisation comme s'il y avait un point marqué dans la trajectoire d'un individu et puis un jour, il allait décider. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les politiques publiques, on fait le pari que c'est de l'ordre de la conviction, de l'intime. Alors, je ne vois pas comment moi je peux convaincre quelqu'un de ne plus être radical. Peut-être le comportement. Quelqu'un reste radical dans son approche intransigeante d'un comportement social, la religion, mais je ne vais pas lui dire ou l'empêcher. Là, c'est l'idée que, bon, au moins sur le comportement, de le détourner de la violence possible. Paradoxalement, l'intransigeance religieuse pourrait être une source de déradicalisation. Donc pour les politiques publiques, c'est de dire attention à trop axer sur le religieux et de rêver à une possible désendoctrinement de quelqu'un avec des choses qui peuvent être un peu caricaturales dans les politiques publiques, en tout cas en Europe, avec un tournant sécuritaire qui pose des tas de problèmes dans la prise en charge de cette question. Or pour la, je vais pas vous faire, je vous renvoie au rapport, hein, pour en forme de teasing comme pour Netflix, c'est-à-dire dans l'épisode 1, il y a le groupe 1. Donc je vous renvoie au texte, c'est un texte de 25 pages où nous on a pris à bras le corps la question de la comparaison. Pas oublier que les vieilles violences continuent à exister et qu'elles étaient déjà en soi porteuses de changements profonds. Je prends la question du Pays Basque en Espagne. Déjà dans les années 90 et 2000, nous ne parlons plus de violences politiques organisées. Nous parlons de choses très diffuses, très subjectives, de violences qui mélangent de l'altermondialisme, de l'antisocial et du nationalisme renouvelé. Donc les vieilles connexions étaient déjà mises à mal dans des violences qu'on voit aujourd'hui en France, qui sont des violences de rue, qu'on a le plus grand mal à définir avec des catégories anciennes, avec des choses, c'est vrai, hein, des gens craquent par la violence sociale, où il n'y a plus d'espace entre la souffrance et la violence, plus d'intermédiaire, où on va s'affronter à des CRS, alors qu'on n'a jamais connu la violence. Et d'ailleurs, tous les gens mis en cause chez les Gilets jaunes, alors je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est très important de comprendre qu'il y a des dérèglements aussi dans les vieilles violences, dans les vieilles luttes. Bon. Alors nous, on a déconstruit tout ça. On a pris à bras le corps les définitions très plurales de la radicalisation. On a voulu éviter le culturalisme, c'est-à-dire que la violence, c'est à expliquer, c'est pas explicable en soi, c'est une variable à expliquer. On ne peut pas déterminer une violence qui existerait dans une culture donnée, parce que alors, l'islam, les Pays Basques, toutes les formes orientalistes... Je dirais presque, pour anticiper demain, par rapport à la table ronde qu'on aura avec Dominique, la violence a surtout des sources profanes et non religieuses, économiques, sociales, dont revenir à une forme de sagesse et à une forme de comparaison et de situation. Ce qui manque dans la littérature américaine, toute l'amitié qu'on a pour nos amis qui dominent la littérature de sciences sociales, c'est la décontextualisation et l'arrachement de ces questions au contexte anthropologique. Il est évident que OK, acceptons radicalisation, mais ce concept-là, dans les banlieues en France, ou même intra-français, ou ici au Maroc ou en Algérie, doit être lesté d'une contextualisation historique. C'est absolument essentiel, d'une contextualisation historique, de l'émergence d'une situation sociale et politique. On ne passe pas dans ces zones-là sans origine historique et de rapport particulier à l'État et à la généalogie historique qui est absolument... Donc revenir à des fondamentaux essentiellement anthropologiques pour contextualiser et donc mieux cibler la compréhension et les politiques publiques. Contextualisation qui est absente des grands programmes financés, en particulier, je ne sais pas aux États-Unis, mais en Europe, où on applique des choses très formatées sur des contextes extrêmement différents. Revenir à l'histoire des lieux, et notamment à l'histoire de l'immigration, puisque, et là j'en arrive au point final qui nous apparaît tout à fait essentiel, c'est les questions de transmission générationnelle à travers les processus migratoires. La radicalisation, appelez-la comme vous voulez, est aussi un héritage contrarié qui, ça c'est un peu une zone d'ombre de notre travail qu'on aimerait beaucoup, c'est vraiment comment se transmet à partir en particulier d'une immigration nord-africaine en France, comment se transmet une culture contrariée, notamment des gens qui arrivent dans le contexte, bon, prenons le concept d'anomie, qui pourrait très bien fonctionner pour comprendre le décalage qui se crée à partir d'une certaine histoire générationnelle. Alors nous, on a fini le travail sur... on a un peu balayé, on a un peu exécuté d'une manière un peu sommaire les digital studies, parce qu'il ne faut aussi pas tomber dans... tout est explicable par la technologie. On a fait appel à une littérature tout à fait fondamentale en excroissance terrifiante, c'est les digital studies, c'est-à-dire comme si l'espace numérique était créateur en soi d'une identité numérique. Bon, ça, c'est une impasse. Il faut absolument reconnecter ces espaces numériques avec des espaces réels. Et il n'y a pas d'identité virtuelle, d'identité... réels, les deux sont interconnectés avec l'idée que c'est plutôt dans un processus final que des gens vont s'aligner par une communauté qui existe déjà dans le réel. Alors on a fini par un pari où on s'est dit quand même qu'il fallait réinvestir l'anthropologie des familles, qui est un point absolument un trou noir dans la littérature existante sur le passage à l'acte et la déradicalisation, ce qui se transmet dans les familles, avec des phénomènes paradoxaux, où je lisais, et demain on en parlera avec un des chercheurs du groupe 3, sur la question du Sahel, c'est-à-dire qu'il faut entendre qu'une forme de radicalisation religieuse peut être aussi paradoxalement une forme d'émancipation. D'émancipation et de refamiliarisation à partir d'une déstructuration. Ça, il faut pouvoir l'entendre. C'est le cas qu'on évoquera notamment sur le contexte, c'est-à-dire d'ascension sociale. D'ascension sociale et par la réputation et par la reconstruction d'un univers familial. Alors, il ne faut pas tomber dans le travers du discours normatif, les familles déstructurées, bon, toute la mauvaise psychologie du père absent. Bon. Mais quand même, il est évident que notre modernité crée des trous. Et les individus ont besoin du social pour se construire. Le social a horreur du vide. Donc, on va recréer des communautés, des fraternités à travers cet espace, cette offre technologique, cette offre idéologique, communautaire, transnationale. Ça, c'est un élément absolument fondamental qu'on aimerait continuer au Liban, parce qu'il y a des gens du Liban, il y a des gens du Caucase, il y a des gens du Pays Basque, il y a des gens d'Amérique. Donc, c'est des choses qu'on observe un peu dans différents contextes historiques. Ça, c'est un point absolument fondamental. Ce qui renvoie au chapitre 2 sur la déradicalisation, où, pour être le porte-parole de nos amis, qui pointe un certain nombre d'impasses dans différents programmes de déradicalisation. Alors maintenant, on parle de désengagement, en se disant que finalement, quand on se retrouve face à un djihadiste en prison, on va avoir un peu de mal à lui expliquer qu'il est dans l'erreur. Ce n'est pas une question d'erreur, c'est une question de, au moins, prévenir la possibilité d'enfermement menant à la violence. à la limite, il reste dans son engagement intransigeant. Ça reste un choix personnel. Avec le problème que pose, si je reprends les conclusions du chapitre 2, qui reviennent à peu près aux mêmes conclusions que nous, c'est-à-dire l'importance du contexte dans la compréhension de ces phénomènes. La difficulté de tout fonder sur des politiques sécuritaires, c'est-à-dire que les politiques de déradicalisation sont aussi vampirisées par des programmes basé sur un malentendu, c'est-à-dire de détection, d'anticipation de la menace. On n'est pas sûr que ça soit pas une impôt. On en parlera aussi sur les questions de sécuritarisation ou de militarisation des politiques publiques dans l'espace moyen-oriental. Dans quelle mesure ça, c'est une réponse à moyen et long terme sur les processus qui deviennent des processus d'identité et de subjectivation beaucoup plus puissants qu'un simple... mauvais passage de l'adolescence. Donc, désengagement et réintégration à partir de la question sécuritaire, ça, je pense que c'est une forte préconisation. L'importance du contexte, la question éthique, quand on aborde ces questions-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le pied dans ces questions-là sans en parler fondamentalement d'éthique. Et de voyez, par exemple, je sais que dans les prisons françaises, Fleury-Mérogis, Farad me racontait qu'ils sont débordés de demandes d'entretien auprès de jeunes djihadistes. Il ne faut pas que ça devienne un marché. Il faut faire attention à ces questions-là et ne pas créer un retour par effet paradoxal des vocations. C'est-à-dire, tu veux que je sois radical, eh bien, je vais l'être comme tu l'espères que je le sois. Donc, aux politiques publiques et aux autorités publiques, les avertir sur des formes de réductionnisme, de passage, d'anticipation de passage à l'acte et d'une forme de marché sur cette question, revenir à des politiques publiques urbaines, en particulier politique de la ville, politique de service public, politique scolaire, politique éducative, c'est banal ce que je raconte, mais c'est absolument... Donc, re-socialiser, recontextualiser ces questions-là. Donc ça, je pense que ce sont des préconisations assez fortes qu'on aimerait à la fois rendre plus scientifiques et plus opérationnelles, notamment en France, où le nouveau plan annoncé de prévention de la radicalisation revient désormais sur la question de la délinquance, alors qu'il fut 6 mois... jadis, où on nous disait, mais non, ce n'est pas lié à la délinquance. Donc ces débats sont stériles. Si on passe par les territoires, ici ou ailleurs, on affinera nos catégories, peut-être ici oui, peut-être ici non, avec des effets qu'on aura à distance au Moyen-Orient, en comprenant que ce sont des proto-États ou des États organisés ou des formes d'organisation politique qui proposent une citoyenneté paradoxale.
Non, mais parce que oui, c'est un peu lié.
Oui,
c'est
lié. Je vais prendre le. On n'en a pas parlé.
Et bonjour. Oui. C'est vrai que le terme n'a pas été prononcé. J'en profite pour remercier tout le monde aussi, les organisateurs, l'Université internationale de Rabat et puis également. La FMSH pour toute son organisation et toutes les personnes qui ont participé à la logistique, à la préparation de cette journée de réflexion. Alors, ce qui concerne un petit peu le panel dans lequel j'étais impliqué avec mon collègue qui était l'organisateur de ce panel, Mohamed Ali Hadraoui. Donc, nous nous sommes poser la question et nous avons décidé de travailler sur la question du salafisme, sectarisme et violence en se focalisant sur la violence en termes de violence armée, en termes de contre-violence contre l'État et tout d'abord de terminer aussi par la réflexion qui était qu'il n'y avait pas de corrélation systématique entre le salafisme en tant que tel, qui est une lecture de l'islam, et un certain nombre de passages à la violence qui pouvaient être parfaitement explicables, expliqués, sans rentrer dans une logique culturaliste, essentialiste, qui était liée à la question de l'islam et de sa lecture radicale qui pouvait en être faite par les salafistes. Donc ça, c'était déjà une posture de départ, une posture qui nous a amené d'abord à de quoi parle-t-on, hein, quand on parlait de salafisme, essayer de vraiment de décorréler, d'expliquer cette lecture de l'islam et les différentes formes modernes qui ont été, qu'elles ont pu apporter à travers justement ces courants pluriels. Quand on parle de salafisme, il faut aussi parler de salafisme pluriel parce qu'il y a eu, on l'a vu, des formes à travers les différentes régions, des formes de salafisme qui ont pris des postures différentes. Elles ont pu, d'abord, on a et on le voit dans tous les pays du Moyen-Orient et les pays musulmans, qu'il existe un salafisme légaliste, c'est-à-dire qui ne conteste pas la légitimité de l'État. Donc celui-ci, outre qui peut présenter un certain nombre de violences par rapport à la société parce qu'il est en posture par rapport à la société de manière un peu plus radicale, et on le voit notamment dans certaines sociétés africaines, les problèmes que ça peut poser par rapport à l'héritage populaire, l'héritage du soufisme et des différentes confréries, une forme d'un islam légaliste et un peu revivaliste, en fait, hein, qui pourrait être un petit peu... Il y a aussi, on a vu, une forme de salafisme plus politique, qui, lui, souhaite davantage rentrer dans la participation politique, soit à travers un certain nombre d'institutions, soit à travers un système, lorsque le système le permet, un système électoral, une participation dans un schéma pluraliste. Et puis on a, je dirais, la troisième version que l'on a tenté aussi de définir, c'est la version qu'on greffe souvent salafisme djihadiste, c'est-à-dire la version violente, qui, elle, a une posture radicalement violente de contestation de l'État et de mise en pratique de cette violence organisée contre l'État. Le rapport, après avoir présenté un certain nombre de ces différentes nuances du salafisme, puisque c'était aussi l'idée de bien présenter ces nuances pour voir de quoi l'on parle quand on parle de salafisme, et qu'on voit que justement, à travers ces trois nuances déjà, la corrélation avec la violence n'est pas automatique, puisque, comme je vous l'ai expliqué, là, cette question de légalisme aussi et de quelquefois même instrumentalisée par les États montre bien qu'on n'est pas nécessairement dans un rapport violent. On est parti également, grâce à la participation dans notre panel de Marc Sejman, qui a tenté justement, lui, un petit peu de contextualiser et de théoriser le passage à la violence, après avoir défini le salafisme, comment définir le passage à la violence, avec un certain nombre d'étapes, de processus, et on s'aperçoit que, effectivement, tous les conflits et les études un peu empiriques qu'on a été amené à mettre en face dans le panel, j'y reviendrai dans un instant, a montré que régulièrement, la présence de populations, de tribus, de groupes sociaux marginalisés, en conflit avec l'État. Donc c'est vrai que la première étape de ce processus, c'est la politisation, ce que Marc Sejman appelle la politisation de l'identité sociale, en opposition à l'État et la société. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est l'escalade du conflit. Et ça aussi, on le voit dans les différents théâtres que l'on a étudiés. La présence de conflits qui génère et qui suscite une réaction de contre-violence. Les autres conditions qui ont été aussi également trouvées, c'est la question du désenchantement vis-à-vis des moyens légaux pour pallier à cette problématique de contester l'État, hein, et qui ne se fait que ou ne se conçoit que par la violence. Et puis une autre condition, c'est l'indignation morale provoquée par un certain nombre de régimes, par un certain nombre d'États. Ces indignations morales, étatiques, flagrantes, que l'on peut voir à travers le système autoritaire, à travers l'humiliation, à travers la corruption, à travers les différentes conditions de détention, notamment de prison, qui ont provoqué ou qui ont généré ce type de passage à la violence. Ensuite, on est passé à la partie, je dirais, plus empirique, où on a essayé de voir aussi comment justement ces processus de violence et de salafisme pouvaient se mettre en place quelquefois et pouvaient être de manière très différente sur des champs que l'on avait plus ou moins l'habitude de mettre un peu dans le même sac et traiter de manière un petit peu, je dirais, globale. La question de l'Algérie, la question de la Tunisie, ont été étudiés. Le salafisme, également la question du salafisme et du pouvoir, des luttes de pouvoir en Libye, le Yémen. Et puis, deux exemples, je dirais, un petit peu plus l'Égypte également. Et deux autres exemples un petit peu plus de référence au phénomène de djihadisation du conflit, voire de contre-violence, c'est la question syrienne. Qui a été une question vraiment emblématique pour étudier ce rapport, et puis la question également palestinienne, où on voit que on est passé à des référents au-delà des référents nationalistes, à des référents beaucoup plus de contestation via justement la lecture religieuse et des références religieuses, une forme de djihadisation, de contre-violence djihadiste par rapport à la question palestinienne. Il y a quelques références ensuite sur le certain nombre de pays occidentaux aussi, par rapport à la question du salafisme et de la violence, notamment le cas en France et en Belgique, quelques paragraphes, et puis également l'Afghanistan et le Pakistan. Alors ensuite, En termes de différentes recommandations, ou en tout cas différentes conclusions qui ont pu être tirées de ce panel, on a essayé de dégager un certain nombre de points. On aurait pu rajouter d'autres points qui pourront être discutés d'ailleurs plus largement dans le futur justement de l'IPEB2 et sans doute, prendre en compte, le premier point c'était prendre en compte les demandes politiques et symboliques des sociétés musulmanes, plutôt que de criminaliser et de les traiter avec méfiance. Donc tout le problème de la gouvernance aussi, hein, d'une gouvernance beaucoup plus inclusive. Repolitiser les voix des musulmans porteuses des demandes de leur société, quoi qu'on en pense. La question de la justice, réflexion sur les causes profondes de la légitimation de l'engagement violent. Vient ensuite la question de la désescalade, qui est là aussi, qui fait interpréter toute la question de l'amnistie, des politiques d'amnistie qui ont pu être menées par un certain nombre d'États. Le cas de l'Algérie, par exemple, a été souvent mise en avant dans cette problématique, et la réintégration individuelle en dernier lieu. Alors quand je dis qu'on aurait pu rajouter d'autres éléments, c'est que on voit bien que dans tous les conflits qui ont été ici étudiés dans ce panel, la question de la gouvernance naturellement et de la problématique de la gouvernance, la légitimation de l'État et de la contestation de cet État sont des éléments, je dirais, des vecteurs qui sont extrêmement prégnants. La question des marginalisations de la société, on le voit bien aujourd'hui dans le conflit et les conflits qui sont générés aujourd'hui au Moyen-Orient à travers la problématique sunnite chiite sont extrêmement importants et sont aujourd'hui extrêmement structurants dans un certain nombre de conflits, voire instrumentalisés, mais en tout cas sont structurants. Marginalisation et c'est une question fondamentale également dans la sortie de violence et dans la gestion que peuvent en faire ces États pour sortir de la violence lorsqu'ils sont confrontés justement à cette violence armée, à mon sens, se pose la question de la contre-insurrection à l'aide, à travers ce qu'on appelle la miliciarisation du paysage. Et ça, on le voit bien en Afghanistan, au Yémen, en Afrique, au Sahel, au Mali, les ravages de la miliciarisation comme moyen de lutte contre les groupes armés qui fragmentent le paysage, qui sont supposés être mis en place pour sortir de l'escalade violente et qui finalement ne sont que on va au lieu de sortir de ce passage à la violence rentrer dans un cycle de violence, de contre-violence, de vendetta, et qui finalement ne fait que, au lieu de désagréger une menace, ne fait que réagréger, disperser un certain nombre de phénomènes, fragmente les pays. Et ne finalement ne conduisent quasiment à aucune pacification ou sortie de violence dans tous les théâtres qui ont été étudiés. Et ça, on le voit très bien. Tous ceux qui, aujourd'hui, pensent qu'une insurrection violente peut être traitée par des milices conduisent à des échecs en permanence, et on voit bien que sur, notamment, on pourrait parler aussi de l'Afghanistan, qui est un phénomène emblématique où le retour et la mise en avant par exemple des talibans sont fondamentales. De même qu'en Irak, la politique des Sahrawis menée à une époque a conduit à enraciner davantage l'État islamique dans cette région. Donc cette question un petit peu des questions des milices, c'est une question qui va sans doute être aussi un sujet de réflexion important, parce que en termes de sortie de violence, on s'aperçoit que les échecs sont quand même flagrants, et même si aujourd'hui certaines politiques ont tendance à encenser ce type de méthode, notamment le modèle entre guillemets émirati qui est en train d'être appliqué au Yémen du Sud, par exemple, dans la formation des milices, en disant les Émiratis ont réussi à assécher le Yémen du Sud de la menace djihadiste. Il faut faire très attention quand on regarde un petit peu en termes de au niveau micro, on s'aperçoit que tous les facteurs et tous les éléments qui ont constitué et qui ont généré justement cette violence sont encore enracinées et sont loin d'avoir été enlevées. Et c'est une politique à moyen et à long terme qui est souvent dévastatrice. Voilà.
Oui, bonjour, je m'appelle Scott Strauss et également, comme les autres, je voudrais remercier tous les organisateurs d'aujourd'hui et demain et l'après-demain, mais également de toute l'IPEV 1 qui était un grand travail, qui était très intéressant en tout cas. Alors, j'ai dirigé un groupe de travail sur la question de mémoire, surtout après la violence de masse, et pour le groupe, on a quitté un peu le Moyen-Orient pour aborder des autres cas dans le pays entier. Et parmi notre groupe, on a étudié la Shoah, le génocide arménien, le Rwanda, l'Éthiopie, le Guatemala, également l'Espagne, la guerre civile en Espagne, et des autres cas. C'était très intéressant, en tout cas. Et on a eu des discussions très, très riches à travers 2 ans et avec des perspectives très différentes. On a eu des cas où on a eu des victimes qui n'ont pas de voix, qui étaient silenciées, et des autres cas où il y avait, une surproduction de mémoire. Et on a eu des débats très intéressants entre nous. Hein. C'était très intéressant. En tout cas, on a essayé de pousser la question comment la mémoire peut contribuer à la sortie de la violence. Et on a essayé d'identifier dans les cas théoriques, comment la mémoire peut fonctionner comme ça. Et on a identifié, 5 ou 6 pistes de la sortie de la violence. Mais quand même, on a également conclu que la mémoire également peut entamer les conflits. Et c'est toujours très difficile d'avoir un consensus sur la question de mémoire. La mémoire est toujours politisé et ça dépend du contexte également, comment la mémoire est utilisée. Et finalement, on a nommé notre chapitre les usages et les mésusages de mémoire. Et on a essayé de décrire comment la mémoire peut fonctionner pour la sortie de la violence et également comment il y a toujours des problèmes avec les projets, de mémoire. Alors, je peux arrêter là parce que la langue française n'est pas la mienne, mais quand même on a décrit beaucoup dans ce chapitre sur ces questions. Alors, voilà.
Merci Scott. Peut-être tu voulais dire un mot, toi, réagir sur le propos de tout à l'heure à l'instant. Sur les milices, ah oui, bien sûr. Voilà, écoutez, tous ceux qui ont participé à ce panel numéro 1 ne sont pas là, hein, on n'est que quelques représentants. On va s'arrêter là, mais simplement, si quelqu'un veut intervenir, bien sûr, il peut poser des questions, on est là pour ça. Et simplement, on va peut-être ensuite enchaîner sur l'avenir, hein, des choses, mais Michel va intervenir.
Non, c'est une question que je voudrais poser. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire quelques mots du groupe qui a travaillé sur la justice transitionnelle?
Oui.
Ou même, enfin, parce que je pense que c'est un thème très très intéressant. Et ce qui m'a intéressé dans ce que j'en ai compris, c'est qu'au bout du compte, une des idées qui surgit, c'est qu'on pourrait étudier les acteurs de la justice transitionnelle. C'est une des leçons que moi je tirerais de ce travail. C'est-à-dire non pas étudier la justice transitionnelle, ce qui est déjà un énorme sujet, mais faire comme objet de recherche ceux qui sont impliqués dans la justice transitionnelle. Mais voilà, je n'ai pas lu le rapport encore de ce groupe.
Ben, on avait parmi nous quelqu'un qui suit de très près, c'est Elisabeth Clavry, qui n'est pas là, qui aurait bien aimé venir, mais elle est au Japon, donc elle est assez loin. Et elle travaille sur Fukuyama. Comment on dit déjà sur Fukushima. Voilà. Là aussi, il y a un. Pardon. J'ai confondu les deux. Ce qui est quand même assez drôle, puisque c'est un clash, éventuellement, dans les deux cas. Bref, donc, Elisabeth Clavry, qui était la responsable de ce groupe, est quelqu'un d'assez rare, puisqu'elle suit de très près. Les procès qui ont lieu à la CPI aujourd'hui et d'un certain nombre d'acteurs qui ont été plus ou moins condamnés par la CPI. Et donc, elle a suivi très près des procès, en particulier celui de Jean-Pierre Bemba, par exemple, en RDC, qui a d'ailleurs été libéré il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Donc, on a eu d'ailleurs tout récemment un colloque à Paris là-dessus. C'est la question qu'elle aborde aujourd'hui de plus en plus, c'est la question de la judiciarisation des, dans le post-conflit. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc il y a des acteurs en effet qui interviennent, en particulier il y a des plaidoyers, il y a des ONG qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé en Syrie et ce qui se passe encore, aujourd'hui, il y a toute une série de démarches qui sont en train d'être faites hein, pour condamner, pour poursuivre toute une série d'acteurs du régime syrien qui sont par exemple réfugiés en Europe, en Allemagne par exemple. Il y en a certains qui ont déjà été arrêtés, je crois. Hein. Et donc toute cette question de qui est quand même une nouveauté dans l'univers de cette sortie de la violence, qui est que des gens supposés être responsables de meurtres de masse ne sont pas quittes et peuvent être poursuivis. Et donc il y a là quelque chose de tout à fait intéressant, car bien sûr tout ceci donne un droit international qui est en qui est en bricolage, qui échoue parfois à la CPI, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont supposés avoir été responsables de meurtres de masse, mais qui au bout du compte sont libérés parce que les charges, les preuves ne sont pas suffisantes. Donc il y a là un monde, un domaine qui est tout à fait intéressant aujourd'hui. Mais ce que Elisabeth Clavry, dans son rapport, ce sur quoi elle met l'accent, c'est au fond cette subtile, mais toi tu l'as un peu évoqué, Skostros, cette dialectique subtile qui aujourd'hui est en question, c'est celui de la mémoire et de l'oubli. Autrement dit, c'est la question de l'amnistie versus poursuite des coupables, enfin, ou des supposés coupables. Parce que je vois. Beaucoup de théâtres, beaucoup de pays où il y a eu des théâtres de guerre civile en particulier, se sont satisfaites de l'amnistie, hein, dans beaucoup de cas, y compris tout simplement pensant que c'était la seule façon de se réconcilier. Donc, on voit bien que ça ne marche pas très bien, mais la poursuite, donc l'impunité, la lutte contre l'impunité, il faut la faire, mais c'est aussi un problème. C'est aussi très compliqué à mener, d'autant plus qu'elle échoue pour beaucoup de cas. C'est le cas de la CPI qui, justement, échoue à condamner telle ou telle personne, etc. Donc on a là quelque chose de très compliqué, pour le coup, mais qui est aujourd'hui il y a une tension très forte entre les deux. Et on verra ce qui se passera pour la Syrie, par exemple, hein, comment les choses vont se passer de ce point de vue-là. Voilà. Et puis, le Rwanda n'est pas une affaire finie aussi, etc., etc.